porte-monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous dresserons ensemble le bilan de la politique africaine de François Hollande. Le président français, vous le savez, est attendu aujourd'hui à Bamako, au Mali, où il retrouvera une trentaine de chefs d'État pour le 27e sommet Afrique-France. Un sommet dominé notamment par les questions sécuritaires et économiques. Mais ce sera aussi et surtout l'occasion pour François Hollande de faire ses adieux à l'Afrique, un continent qui aura marqué son quinquennat avec les opérations militaires au Mali, en Centrafrique et plus largement au Sahel. Peut-on dire que sous François Hollande, la France est redevenue le gendarme de l'Afrique? Nous vous posons la question ce matin. On attend évidemment vos réactions, vos commentaires. Nous parlerons également de la bonne gouvernance. On se souvient que François Hollande avait promis au début de son mandat de rompre avec la France-Afrique, de rompre avec les régimes qui ne respectaient pas certains critères de démocratie et de droits de l'homme. 5 ans plus tard, que reste-t-il de cet engagement? Vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 et le débat, je le vois en ce moment, a lieu déjà sur la page Facebook de l'émission, donc continuez à nous envoyer vos commentaires, j'en lirai quelques-uns tout à l'heure. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que vous entendez dans nos différents journaux. Arfang nous appelle du Sénégal. Bonjour Arfang.
Bonjour Juan Gomez.
Merci de votre fidélité, vous nous appelez de Richard Toll et vous avez plusieurs questions concernant le Brésil.
Bien sûr, mais permettez-moi de demander où est Laurent Saadou parce qu'on a envie de l'entendre.
Ah non, Laurent Saadou qui a longtemps présenté, c'est vrai, Afrique Midi sur l'antenne d'RFI. Bah écoutez, on va prendre de ses nouvelles et nous vous tiendrons évidemment au courant. C'est vrai que régulièrement, vous nous demandez de ses nouvelles, on l'entend plus depuis un moment. Des questions sur la situation dans les prisons brésiliennes, Arfang.
Bien sûr, 3 massacres ont fait 100 de morts, moins d'une semaine dans les prisons brésiliennes. Comment expliquer les violences répétitives dans les prisons brésiliennes? Peut-on parler d'une faille de la sécurité pénitentiaire?
Ah oui.
Que prévoit l'État brésilien pour réguler ces problèmes?
C'est vrai, 100 de morts, c'est le lourd bilan d'une semaine de violence carcérale au Brésil. Silvano Mendes, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Le phénomène n'est pas nouveau. Vous êtes journaliste à la rédaction brésilienne d'RFI. Déjà l'année dernière, près de 400 détenus avaient été tués dans les prisons brésiliennes. Que se passe-t-il? Comment expliquer ces assassinats à répétition?
Oui, effectivement, c'est pas nouveau. On a eu même un film sur ces mutineries dans les prisons, mais la question est assez complexe. Il y a plusieurs raisons derrière ces épisodes de violence. D'abord, il y a bien sûr une surpopulation carcérale qui a d'ailleurs a été dénoncée encore une fois cette semaine par une commission de l'ONU qui a fait un rapport sur ce sujet. Une surpopulation qui n'est pas seulement due au manque de prisons, mais aussi à un système judiciaire qui est complètement submergé. Pour vous donner une idée, dans l'état de l'Amazon, dans le nord du Brésil, plus de la moitié des détenus sont en attente d'un procès.
Ah oui. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de l'Amazonie, le taux d'occupation des prisons sur place est de 259%.
Effectivement, on peut vraiment parler d'une surpopulation qui est très fréquente et qu'on voit dans la plupart des prisons au Brésil. Mais il y a surtout une véritable guerre de gangs au sein de ces prisons, une guerre de gangs pour le contrôle de l'approvisionnement de la vente de la drogue, de la cocaïne dans les prisons, qui est à l'origine des massacres des 2 dernières semaines. Alors, forcément, surpopulation plus guerre de gang, c'est très difficile pour les autorités et la surveillance pénitentiaire d'agir. Il faut savoir que pendant longtemps, il y avait une sorte d'entente cordiale dans les prisons, si on peut le dire, entre 2 principaux gangs, un du sud du Brésil, à Sao Paulo, et un autre dans le nord, où se sont passés ces massacres ces 2 dernières semaines.
Et donc, cet accord tacite entre ces 2 fameux gangs a volé en éclats. là, d'où ces nombreux massacres ces derniers jours. Le nord du Brésil est une région stratégique d'ailleurs pour ces deux gangs.
Oui, surtout parce que le nord du Brésil fait frontière avec des pays comme le Venezuela, le Pérou et la Colombie. Ce sont des frontières qui sont très difficiles à surveiller par leur extension, mais aussi à cause de la forêt amazonienne, et qui représentent un lieu stratégique pour l'économie de la drogue. Donc c'est une sorte de porte d'entrée de la cocaïne au Brésil. Cocaïne qui doit ensuite souvent être exportée vers l'Europe, en passant parfois par l'Afrique, mais qui est commercialisée aussi au sein des prisons. Alors, pour revenir en mutinerie, c'était l'assassinat au mois de juin dernier d'un des chefs des factions à la frontière de Paraguay qui a déclenché ces mutineries, et les autorités pénitentiaires ont donc perdu le contrôle.
Et du coup, pour se venger de cet assassinat, des détenus ont été tués de l'autre clan, et l'autre clan en question a voulu se venger à son tour. On arrive donc à 100 morts en une semaine dans les prisons. On a comme l'impression, mais peut-être que je me trompe, Silvano Mendes, que l'État ne contrôle pas la situation.
Bah, c'est vrai que cette impression que ça peut donner, surtout quand on voit que le président, par exemple, Michel Temer, a attendu presque une semaine pour se prononcer. Il a d'ailleurs été très critiqué pour son silence. Après cet épisode, il a annoncé la construction d'une trentaine de nouvelles prisons. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement le manque de prisons qui est derrière ces mutineries. Le gouvernement a aussi répondu aux demandes des États concernés avec, entre autres, l'envoi d'équipements et le transfert des détenus vers les prisons fédérale. Il y a eu plus de 200 hommes qui ont été envoyés dans la région. Ces renforts ont été envoyés par le gouvernement avec la mission d'assurer la sécurité aux alentours des prisons et de contribuer à la recherche des fugitifs, des détenus qui se sont évadés.
Oui, puisqu'une dizaine, plusieurs dizaines de détenus sont toujours et encore dans la nature après cette vague de violence. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, Arfang ?
Bien sûr, Juan Gomez. Je suis toujours content de vous. Merci beaucoup.
Eh bien, ravi de vous avoir à l'antenne. On remercie évidemment Silvano Mendes de la rédaction brésilienne d'être venu nous répondre. Il est 9h17 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Marius, bonjour.
Bonjour, monsieur Juan Gomez. Bonne année à vous.
Bonne année à vous également. Merci de nous appeler d'Abidjan. Vous avez des questions sur les violences dans le Sinaï en Égypte?
Tout à fait. Comme j'ai dit dans mon commentaire, récemment, un attentat meurtrier a été perpétré contre les forces de police égyptiennes dans le Sinaï. À ce sujet, j'ai deux questions. Je voudrais savoir quelles sont les forces en présence qui sévissent dans le Sinaï et qui revendiquent-elles?
Alors, c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion de répondre à cette question, mais à chaque fois qu'il y a des attentats, vous nous appelez, vous nous posez des questions pour comprendre la situation complexe dans le Sinaï. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant d'RFI en Égypte. Je rappelle que lundi, 9 policiers et un civil ont été tués dans une attaque au camion contre un camion piégé contre un barrage sécuritaire dans le nord du Sinaï, attaque revendiquée par l'organisation de l'État islamique. On voit bien que cette région connaît ces derniers temps une recrudescence de la violence. Alors expliquez-nous concrètement quelles sont les forces en présence sur le terrain.
Alors d'abord, il y a les terroristes qui sont rattachés effectivement à l'organisation État islamique du Sinaï. On les estime à 12 000. Ils émanent des tribus bédouines locales, viennent aussi de la vallée du Nil et sont renforcés par des combattants venus de Gaza et même de la lointaine Tchétchénie. Alors, leur armement va des armes légères aux missiles anti-aériens ou anti-tanks, en passant par les mortiers et les mitrailleuses lourdes qui sont montées sur des 4x4. En face, il y a les forces de sécurité qui sont estimées à 25 000 hommes, principalement des conscrits dans la police et dans l'armée. Les zones urbaines sont sécurisées par la police et les vastes régions désertiques par l'armée. Ces forces disposent de blindés et de tanks pour quadriller le terrain, ainsi que de patrouilleurs de la marine en Méditerranée. Mais leur arme la plus efficace, ce sont les hélicoptères d'attaque Apache et avec l'appui des chasseurs F-16. On estime que les affrontements ont fait en 5 ans près de 4000 morts et blessés.
Voilà donc pour un état des lieux des forces en présence. Vous avez une autre question, Arfang ? Marius, pardon.
Oui, pourquoi l'armée égyptienne, qui est aussi puissante par sa capacité de réaction, n'arrive-t-elle pas à venir à bout des insurgés, voire même à éradiquer les terroristes dans cette région.
Ouais, ça, c'est une excellente question, Alexandre Bouchanti. Il faut bien comprendre que, oui, les combats sont difficiles, mais ils sont d'autant plus compliqués que le Sinaï est une région montagneuse. Donc, c'est une région difficile à maîtriser.
Oui, tout à fait. Et puis, le champ de bataille s'étend sur une zone qui va de la capitale du Nord Sinaï, à Larish, à la frontière avec Gaza, et sur une cinquantaine de kilomètres de profondeur. Donc, c'est l'équivalent de l'île de la Réunion en superficie. Une région qui, en dehors de quelques petites villes et bourgades, est en fait un désert difficile d'accès, qui offre d'innombrables cachettes naturelles. Et cette région est sillonnée par des bédouins qui bouge constamment sur des pistes et des sentiers qui connaissent les yeux fermés.
Oui, il faut rappeler aussi que cette région a longtemps échappé aux autorités égyptiennes, au pouvoir central.
C'est une zone qui a d'abord été occupée par Israël durant une quinzaine d'années, puis qui a été démilitarisée durant une bonne trentaine d'années par le traité de paix. C'est donc une région qui a échappé au pouvoir central du Caire, un pouvoir qui, depuis 1952, est sous l'influence des militaires. C'est aussi une zone qui est peu développée économiquement. Contrairement au sud du Sinaï, où le tourisme a enrichi la région, le nord a été négligé en attendant des plans de développement agro-industriels qui ne se sont pas concrétisés, mais la région, qui compte plus de 150 000 habitants, principalement des Bédouins, a connu un boom économique à partir de 2007 avec la prise du pouvoir à Gaza par le mouvement islamiste Hamas, un mouvement qui est proche des frères musulmans égyptiens qui étaient opposés à Hosni Moubarak. Alors, avec le blocus égyptien, mais aussi israélien de Gaza, les tunnels de contrebande se sont multipliés avec le nord du Sinaï, ce qui a provoqué une véritable manne économique, mais aussi une infiltration de l'idéologie djihadiste.
Oui, et ce qui a compliqué la situation, c'est aussi la chute de Muammar Kadhafi en Libye. La mort de Kadhafi a eu des répercussions en Égypte.
Oui, effectivement, la mort de Kadhafi, après l'intervention de l'OTAN et la vacance de pouvoir, a fait que des centaines de tonnes de l'arsenal libyen se sont dispersées dans la nature et beaucoup de ces armes sophistiquées ont fini dans le nord du Sinaï. Ils ont aussi profité des désordres politiques qu'il y a eu en Égypte, puis enfin de la bienveillance du pouvoir frère musulman. Alors, les forces de sécurité dans le Sinaï ont subi de lourdes pertes en 2012 et 2013. À partir de 2014, il y a un envoi massif de renforts dans le Sinaï qui rééquilibre les forces. Et en 2015, l'armée procède à une destruction systématique des tunnels qui lient le nord Sinaï à Gaza, ce qui prive les djihadistes de ressources matérielles et financières importantes. En 2016, les djihadistes du Sinaï prêtent allégeance au groupe État islamique et de son côté, l'armée et la police redoublent leur coup. Mais éradiquer une guérilla n'est pas facile, on l'a bien vu en Amérique du Sud, et ce qui manque aujourd'hui le plus à l'Égypte, c'est le renseignement high-tech avec l'aide des satellites, mais aussi avec les drones sophistiqués.
La lutte continue donc. Merci Alexandre Bouchanti d'avoir été en direct avec nous du Caire. Marius, bonne journée à Abidjan où il est 8h23. Vous nous appelez, vos questions 339 693 693 70. Alexandre Sebon du service des sports nous rejoint. Bonjour Alexandre.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions sur la nouvelle formule de la Coupe du Monde de football. Bonjour Moussa.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Bamako, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, la FIFA a changé le format de la Coupe du Monde à 48 participants à l'horizon 2026.
Oui.
Quelles sont les conséquences cela entraînera-t-il et comment les équipes seront-ils qualifiées par continent? Ce changement est-il favorable pour les équipes africaines?
Ah, bonne question. Eh bien, bonne question, et c'est vrai que vous êtes nombreux à vous interroger. Quelles répercussions, quelles conséquences pour l'Afrique? Alexandre Seban, on va donc passer à partir de 2020 de 32 à 48 équipes. Concrètement, comment tout cela va s'organiser?
Alors tout d'abord, bonjour Moussa, merci pour vos questions. Eh bien, on passera donc d'une formule à 32 équipes, réparties en 8 groupes de 4 que vous connaissez, avec 2 qualifiés pour ensuite jouer le tableau final à partir des 8e de finale jusqu'à la finale. Mais en 2026... Donc tout change, 48 équipes, vous l'avez dit. On partirait donc sur 16 groupes de 3 équipes, Puis on sort de cette phase-là de qualifiés pour jouer des 16e de finale jusqu'à la petite et la grande finale ensuite.
Donc les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour
Exactement.
Les 16e de finale. La durée de la compétition ne change pas là.
La durée
Il y a
de
beaucoup plus de matchs, 80 matchs, mais toujours
Exactement,
en un
c'est le but de la FIFA de garder le format en tout cas dans son timing sur un mois de compétition, on bougerait pas de cette formule-là en tout cas.
Alors à qui va concrètement profiter cette réforme, à l'Afrique ou pas?
Eh ben oui, à l'Afrique déjà, parce que il y avait une réelle volonté à la FIFA de remercier aussi le football africain, la terre africaine, d'avoir fourni jusqu'à présent de nombreux talents. Et puis évidemment, alors ça se traduit tout d'abord par des chiffres, évidemment. Oui. Pourquoi on dit que l'Afrique serait gagnante? Parce qu'elle passerait de 5 représentants actuellement à 9,5, voire 10 représentants. C'est ce que nous a confirmé le président Ayatou il y a quelques jours.
Sur l'antenne d'RFI.
Exactement. L'Asie aussi tirerait son épingle du jeu, passant de 4,5 à 8,5 participants. Alors les demi, c'est parce qu'il y a un petit tour de barrage avant en fin d'éliminatoire. Alors pourquoi l'Afrique et l'Asie? Parce que donc remercier l'Afrique évidemment, et l'Asie, c'est un énorme marché pour le football. On en a parlé il y a quelques temps avec les transferts. L'Asie, notamment la Chine et l'Inde, sont deux pays émergents. Il y a beaucoup d'argent à aller chercher dans ces pays-là, en développant tout d'abord les championnats nationaux et ensuite évidemment les équipes nationales. Et on a une volonté réelle chez Gianni Infantino de retrouver régulièrement la Chine et l'Inde en Coupe du Monde. La Chine, je vous le rappelle, ce n'est qu'une participation à un mondial, c'était en 2002.
Effectivement, et la Chine qui veut, à l'horizon des 20 prochaines années, organiser la Coupe du Monde et la remporter,
et pourquoi pas
ça
la
va
remporter.
De soi. En tout cas, les modalités de répartition des 16 et que de ces 16 places supplémentaires sera arrêtée quand? Dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années?
Oui, alors évidemment, on n'a pas encore de date précise. Pour l'instant, ça reste un petit peu flou sur le nombre de participants, mais on devrait se diriger vers ce qu'on vient de dire, a priori dans les mois qui viennent, ou ça devrait être décidé, évidemment.
À suivre donc. Merci Alexandre Seban du service des sports. Ouda Ibrahim, bonjour. Journaliste au service Afrique d'RFI, spécialiste de la situation en Libye. Davy est à Libreville. Bonjour Davy. Allô Davy?
Allô?
Oui, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Vous avez justement des questions sur la Libye. Alors, on a un petit problème, visiblement, avec Davy à Libreville, le réseau ne passe pas, il nous entend, on ne l'entend pas, je vais donc me faire son porte-parole. Il revient sur l'ouverture, il y a quelques jours, en Libye, de l'ambassade d'Italie. C'est vrai que, comme tous les autres pays, l'Italie avait fermé son ambassade à Tripoli. Les Italiens avaient d'ailleurs été les derniers à fermer leur représentation diplomatique. Ils sont désormais les premiers à revenir. Il veut savoir pourquoi et pourquoi maintenant, et comment la sécurité de l'ambassade sera-t-elle assurée. Pourquoi ouvrir une ambassade maintenant?
L'Italie d'abord est confrontée à un très grave et très grand problème, c'est la question de la migration illégale. Il y a des milliers de migrants qui arrivent presque tous les jours. Par jour, on sauve dans la Méditerranée presque 1500 personnes, parfois 1800 personnes, et c'est en continu. Donc il y a devant un constat qui est l'opération Sophia, qui est pour l'Italie un échec aujourd'hui, avec les Européens, et ils devaient prendre des mesures, et ces mesures à partir de ce geste, ouvrir l'ambassade à Tripoli.
Alors, donc il y a urgence de lutter aujourd'hui contre l'immigration clandestine, vu le nombre de migrants qui arrivent en Italie en partant de Libye.
En partant de Libye, et à rappeler que l'Italie, ce dernier temps, a découvert de cellules dormantes de l'organisation État islamique à Napoli, la fameuse cellule de Napoli, et on sait très bien que cette organisation terroriste projette même d'occuper le Vatican, enfin ils rêvent de ça, et c'est dans leur but pour les prochaines années. Et il y a eu des hommes religieux qui prêchaient la haine, et huit parmi eux étaient éloignés de la région de Napoli et extradiés vers leur pays d'origine, dans la Tunisie. Et le ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, italien, effectivement, était en Libye, et c'est à cette occasion, mardi dernier, qu'on a réouvert l'ambassade, ce qui a posé plein de questions en Libye par rapport à la sécurité et par rapport pourquoi un ministre de l'Intérieur vient à la place d'un ministre des Affaires étrangères. Oui. Et ensuite, on a vu des images des forces italiennes qui sont à Tripoli pour cette ambassade.
En tout cas, voilà qui est dit. Merci beaucoup, Ouda, d'avoir été brève. On est obligé de rendre l'antenne pour le journal, mais on revient dans 10 minutes. Priorité.